Nicolas Gouraud, This Means More, 2019.
Je m'appelle Nicolas Gouraud. Le film que je présente dans l'expo 100% s'intitule This Means More. C'est un film que j'ai fait au Frénois en 2019. Le point de départ du film, c'est de raconter un peu l'histoire d'une l'architecture d'un stade, en l'occurrence celui de l'équipe de Liverpool, et plus particulièrement de raconter l'histoire de la tribune populaire, qui est une des tribunes du stade, qui se trouve derrière le but, qui s'appelle le COP, qui avait la particularité d'être le lieu où se retrouvaient les supporters les plus pauvres, on va dire, d'un milieu populaire, qui pouvaient en fait entrer dans cette tribune, parce que c'était une tribune qui était sans siège, où les supporters se tenaient debout, donc pouvaient rentrer en très grand nombre, et où le prix des places était relativement bas. Donc l'histoire du COP, ça a été des supporters du coin, du quartier de Anfield, qui pouvaient assister au match comme ça, à très bas prix en fait. Et du coup, qui développaient vraiment une culture très forte autour du club, avec des chants, avec des mouvements de foule particuliers, etc. Et donc le film raconte l'histoire de ce stade, et surtout de cette tribune-là, du point de vue de l'architecture, en donnant à voir une sorte d'évolution historique qui est marquée par une catastrophe qui s'est déroulée en 1989 dans un autre stade à Sheffield, qui est le stade de Hillsborough, dans lequel il y a eu un mouvement de foule en fait, parmi les supporters de Liverpool qui étaient en déplacement, et une centaine, 95 personnes sont mortes le jour de ce mouvement de foule. Et donc cet événement-là a été un grand traumatisme en fait en Angleterre et dans le monde du foot en général, et a amené en fait une évolution de l'architecture des stades vers plus de sécurité en fait, et vers des stades avec des places assises telles qu'on les connaît aujourd'hui en fait. Donc cet événement, c'est un peu le catalyseur qui a fait basculer vers le modèle contemporain du football. Donc un des enjeux aussi du film, c'était de rendre un peu étranger, inquiétant et presque surprenant l'arrivée d'un siège en plastique dans un stade, qui est un objet hyper banal. Et donc par justement raconter toute cette histoire, l'arrivée du siège, tout d'un coup, ça devient comme une sorte d'envahissement en fait. Alors que c'est un objet complètement banal, et aujourd'hui on se pose pas de questions quand on arrive dans un stade et qu'il y a des sièges partout en fait. Voilà, et donc le film This Means More en fait retrace l'évolution de l'architecture du stade de Liverpool comme une sorte de métaphore en fait, de microcosme de changement de la société beaucoup plus large qui se sont passés aussi à cette époque-là.
Well, to me, it's the place where them people meet. It's where you go to support Liverpool Football Club. It's a subgroup of of the community.
Il y a un peu deux points de départ. Le premier, qui est assez simple, qui est que j'ai moi-même un ami, un très bon ami qui est un grand fan de foot, un supporter du PSG. Avec lui, en fait, on a assisté à beaucoup de matchs de Paris dans un PMU, en fait. Et on a pas mal discuté, en fait, autour de l'histoire du club, du PSG, mais aussi l'histoire des supporters, parce que c'est une histoire où il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de mythes. Et l'histoire des supporters de Liverpool, c'est une histoire importante dans la culture des supporters. Donc ça, c'était le premier point, c'est qu'en fait, en échangeant avec des gens au PMU, j'ai découvert cette histoire, et notamment l'histoire de Liverpool. Et la deuxième élément, on va dire, déclencheur, c'est qu'en parallèle, je m'intéressais au travail d'une agence de recherche qui est basée à Londres, qui s'appelle Forensic Architecture, et dont le principe est d'utiliser des outils de modélisation architecturale pour enquêter sur des crimes de guerre, sur des crimes humanitaires. Et donc, ils allient beaucoup l'analyse de l'architecture avec des phénomènes de violence d'État ou de violence systémique. Et donc, j'ai collaboré avec l'agence, et ça a beaucoup aussi influencé ma manière de percevoir ma pratique. Et il se trouve que c'était en même temps en fait, que je discutais de l'histoire des supporters et que je travaillais pour Forensic Architecture. Donc, à un moment, j'ai voulu un peu croiser ces deux centres d'intérêt et l'intrication qu'il y avait entre l'architecture des stades et les images que ça produisait, et les images d'une foule que ça produisait. En même temps, j'ai découvert l'image d'archive qui sert un peu d'élément central au film, qui est une archive de la BBC fin des années 60, je crois, début 70, où on voit justement des supporters de Liverpool qui chantent un morceau des Beatles. Et en parallèle, en fait, je voyais défiler énormément de publicité aujourd'hui où on voit des supporters, mais on les voit de manière assez floue dans le fond de l'image, etc. Et donc, je me suis demandé un peu, quand j'ai comparé les deux images, j'ai vu qu'il y avait une sorte de presque un état de la matière différent, un état de la foule différent. Et donc, c'était ce passage entre deux états de foule qui m'intéressait. En parlant de l'architecture de la tribune et du coup de l'arrivée des sièges par le mouvement de la foule, donc par un angle d'attaque visuel, on avait symboliquement accès à deux époques différentes, à deux types de comportements, même deux rapports à la foule en fait. Parce que, je veux dire, aujourd'hui, avec la situation actuelle, on va plus se comporter de la même manière, je pense, après la Covid, vis-à-vis des rassemblements. Il y aura sûrement, même inconsciemment, pendant quelques temps, des réticences, une perception différente. Et en fait, vis-à-vis de la sécurité dans les stades et vis-à-vis de la sécurité dans la foule, je pense qu'il y a un peu la même sensation. Et du coup, à travers juste des mouvements de foule représentés visuellement, on peut imaginer des époques, en fait. Et donc, c'est un angle qui m'a paru intéressant parce qu'à travers une image, enfin, en l'occurrence, à travers deux images, on peut confronter deux époques, en fait.
Ils ont la fonctionnalité pour faire plus naturalistiques choses, mais, essentiellement, ces détails semblent comme un effort pour quelque chose qui n'est pas venu à se passer dans le final produit.
Dans le film, il y a une hypothèse qui est que le stade ultime des supporters dans les stades de foot, ça va être leur version numérique, qui va remplacer en fait la présence des supporters, qui à l'époque était une hypothèse et qui, avec justement la Covid, s'est révélé être mis en place, puisque maintenant les matchs qu'on peut voir à la télé en fait sont dans des stades vides, mais avec un son d'ambiance qui provient d'enregistrements pour des jeux vidéo, notamment pour FIFA et des choses comme ça. Donc cette hypothèse-là, en fait, c'était un peu le pari du film, de passer de l'architecture des stades, donc des sièges, à la matrice un peu du logiciel 3D, qui fonctionne en fait de manière un peu similaire. Dans le logiciel 3D, les sièges servent de point de départ à toute la vie de la foule, en fait. Et donc ça, c'était un pari du film, de faire la passerelle entre architecture des stades et foule virtuelle. Dans le contexte actuel, disons que l'industrie de la foule de synthèse va devenir encore plus importante. Et donc je voulais juste déjà comprendre comment ça se passe, donc d'un point de vue de fabrication de l'image. Donc j'ai interrogé des graphistes qui utilisent des logiciels de foule virtuelle principalement pour des publicités. Le fait d'utiliser le témoignage d'un graphiste, c'était quelque chose d'important que j'ai beaucoup discuté au cours du montage, qui a pu disparaître par moments, mais qui est toujours revenu, en fait, parce que pour moi, c'est un enjeu fort du film. Et du coup, le mettre au départ, c'est aussi signaler que l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fabrique des images et quelle politique il y a associée à ces images-là, en fait. Donc, c'est une partie un peu didactique que j'ai essayé de ne pas rendre trop lourde et pas trop didactique, justement. Mais c'est un élément important pour que le spectateur puisse entrer dans le film. Et dans un deuxième temps, je me suis formé à ce logiciel-là pour justement non seulement comprendre comment ça fonctionne, mais pouvoir le réutiliser et le détourner un peu. L'idée que j'avais, c'était un peu de donner une histoire ou une mémoire à une foule virtuelle qui est une sorte d'état contemporain et en apesanteur, on va dire, de l'image de la foule, quoi. Et donc c'est ça qui m'intéressait, c'était un peu de donner de l'épaisseur à une image assez plate qu'on voit comme ça de manière floue dans un arrière-plan de publicité deux secondes à cause d'un montage très très haché, quoi. Les supporters qui ont accepté de témoigner dans la vidéo, je les ai rencontrés par l'intermédiaire d'un journaliste anglais, de la BBC qui s'appelle Peter Marshall et qui a fait un documentaire sur Hillsborough. Donc j'ai vu ce documentaire, je l'ai contacté au départ pour avoir des informations dans ma phase de recherche. Et rapidement, en fait, il a proposé de me faire rencontrer quelques supporters qui étaient potentiellement intéressés de partager leur histoire. Et donc, c'est comme ça que je suis entré en contact avec eux. Et en fin de compte, je suis allé très peu longtemps à Liverpool. J'y suis allé deux fois dans des petits séjours à chaque fois. Mais étant donné qu'on avait un peu une sorte de culture commune, en fait, de par l'histoire commune du football en Europe, en fait, ça crée des liens. Et donc, même si au final, je les ai vus assez peu de temps, il y a une sorte de, je sais pas, de confiance qui s'est créée parce qu'on partageait bizarrement une culture commune. Et donc, je pense que ça les a aussi, quelque part, rassurés de savoir qu'en fait, ils ne parlaient pas dans le vide et qu'il y avait une oreille qui les entendait, quoi. Et après, je pense qu'ils avaient très, très envie aussi de partager leur histoire parce que pendant longtemps, en fait, ils ont été stigmatisés par rapport à la catastrophe de Hillsborough. La version officielle diffusée par les médias, c'était que les supporters de Liverpool eux-mêmes avaient provoqué la catastrophe et surtout avaient commis des actes dégradants sur des personnes qui étaient décédées. Donc c'est une histoire qui a été relayée par le tabloïd The Sun, notamment. Et donc c'est quelque chose qui est resté très ancré en fait, dans la culture à Liverpool. Et il y a une sorte de haine vis-à-vis de ce journal-là et vis-à-vis de la version officielle. Et du coup, il y a une envie de juste dire leur version des faits. Et donc c'était, je pense qu'ils avaient juste envie d'exprimer de partager cette version des faits par un peu tous les moyens. Et This Means More, c'était un moyen parmi d'autres, en fait. C'était un point important. Parce que c'est aussi c'est très important du coup de diffuser cette version-là parce que elle a été occultée pendant très très longtemps. Mais je voulais pas justement que le film se réduise à l'affirmation de juste une vérité par rapport à l'événement. Et donc je voulais que ce soit plus large par rapport à la culture des supporters et l'histoire des supporters de Liverpool. Et donc, en fin de compte, les choses que j'ai apprises, elles ne concernaient pas tant le déroulé de la catastrophe, mais ce que j'ai appris, c'était plus sur l'expérience des supporters dans la tribune à l'époque où c'était une tribune debout, en fait. Et donc, les choses que j'ai vraiment apprises, c'est tous ces moments où ils m'ont décrit un peu leur perception de la foule quand ils étaient entourés comme ça d'une sorte de masse qui les dépassait et qui les charriait comme des vagues. En fait, il y a la métaphore des vagues, elle revenait tout le temps. Et à la fois, ces vagues-là, du coup, ils apprenaient à les dompter. Et c'est comme un surfeur un peu. Enfin, c'est assez étrange. Ils me parlaient presque comme des surfeurs, en fait, d'une tribune de foot. Donc ça m'a beaucoup surpris, ça. Et là, j'ai appris des choses, ouais, vis-à-vis de ça. Et vis-à-vis, donc, du coup, plus de l'expérience incarnée des supporters.
Well, those two central pens probably only held 650 in each, safely. Well, that day, there was possibly 3,000 or more.
L'enjeu en modélisant l'espace et en montrant plutôt la modélisation 3D de l'espace que les images d'archives de la catastrophe de Hillsborough, en l'occurrence, pour moi, c'était vraiment mettre au premier plan cette espèce d'arrière-plan qui est en même temps la condition de déplacement de la foule, qui est l'architecture de la tribune. Le fait de ne pas montrer les corps, déjà il y avait une marque de respect vis-à-vis des supporters qui ont perdu la vie à Hillsborough et dont on n'arrête pas de montrer les mêmes images et de remontrer la catastrophe. Et je pense que... Enfin, moi je ne voulais pas participer à cette espèce de répétition d'image catastrophique parce que je voulais montrer une autre image aussi des supporters. Donc il y avait déjà une marque de respect et en même temps, en ne montrant pas la foule au moment de la catastrophe de Hillsborough, ça permettait de faire ressortir l'architecture de la tribune. Et en l'occurrence, les cages qui entouraient la tribune et qui ont empêché les supporters d'envahir le terrain au moment où la tribune était surchargée, il y avait trop de monde. C'est vraiment ces grilles-là qui ont qui ont provoqué la catastrophe. Il y avait d'autres facteurs, mais qui ont favorisé la catastrophe. Et donc, en ne montrant pas la foule, en montrant que l'espace architectural, je voulais juste les montrer, en fait. Parce que je trouve que c'est très impressionnant quand on voit ces grillages, cette architecture. En fait, on se rend compte de choses juste par le fait qu'on la regarde, alors qu'en général, elle est présente, elle est là, elle est sous-jacente, elle détermine les mouvements de la foule, mais elle est masquée par la foule, et donc on la regarde pas vraiment, en fait. Et donc, en retirant les corps, ben, c'était une manière de montrer un peu la structure sous-jacente de la tribune qui a, on va dire, sinon provoqué, au moins favorisé la catastrophe. This Means More, c'est un slogan publicitaire du club. Et donc, je trouvais intéressant ce slogan-là parce que il témoigne de l'ambiguïté qui, moi, m'intéresse dans le stade de foot en particulier et dans des espaces de sport en général, entre d'un côté une forme de culture populaire et une forme de spontanéité de la foule qui s'exprime dans le stade comme un espace public. Et en même temps, ce stade-là, c'est un outil de contrôle pour la foule, c'est une propriété de promoteurs immobiliers, de clubs et de fonds d'investissement. Et donc il y a une tension entre la spontanéité des supporters et l'histoire vernaculaire en fait, des supporters et la réappropriation de cette histoire et de cette énergie par les clubs et par les propriétaires. Et donc c'est l'enjeu du film et cet enjeu-là en fait il est synthétisé dans ce slogan qu'on voit à la fin du film. Les projets que je développe actuellement, ils sont en lien, mais ils sont moins directement sur l'architecture que sur la fabrication des images, on va dire. Qui était une dimension importante dans This Means More, où en fait, c'est aussi bien l'architecture du stade que la fabrication d'une image de foule. Et donc, les projets que je développe actuellement, ils gardent cette dimension un peu d'enquête et de recherche documentaire poussée, mais ils la dirigent plutôt vers... Des questions d'image, de comment est-ce qu'on fabrique une image et de politique de la représentation et de choses plus spécifiquement liées à l'image et peut-être moins directement ou moins explicitement à l'architecture.